Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle, puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche, et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Et la meilleure année possible à chacun d'entre vous. Et si on parlait des enfants? Les enfants non protégés parce que non français, ou de parents non français. La France s'est engagée, à travers la Convention internationale des droits de l'enfant et de nombreux textes français et européens, la France s'est engagée à protéger et à offrir une vie digne aux enfants résidant sur son sol, quelle que soit leur nationalité ou la nationalité de leurs parents. Or, chaque jour, les politiques migratoires menées à l'échelle française et européenne bafouent les droits les plus élémentaires de milliers d'entre elles et d'entre eux. On va voir ça de près. Bienvenue dans l'envers du décor du 7e plus riche pays du monde, où vivre en famille, manger à sa faim, avoir un toit, être scolarisé, soigné ou encore protégé en cas de violence est loin, très loin, d'être une réalité pour chaque enfant. A fortiori, si l'enfant est isolé ou si ses parents n'ont pas les bons papiers au bon moment. Alors, on fêtait l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, dite la CID. C'est Convention I internationale des droits et l'enfant. Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, la CID est aujourd'hui ratifiée par 194 États, dont la France. En tant que traité international, elle prime sur le droit français. Les principes de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la non-discrimination entre enfants s'appliquent à tous les droits qu'elle impose. Par enfant, la CID entend tout mineur de moins de 18 ans. Alors voyons ce qui se passe pour des enfants dont l'état civil est contesté. Avoir un nom et une nationalité est un droit censé s'exercer dès la naissance, selon l'article 7 de la CID. Pourtant, des soupçons pèsent sur les personnes étrangères des mères sont fréquemment accusées de faire faussement reconnaître leur enfant par un père français. La nationalité française peut ainsi être contestée à tout enfant né d'un couple non marié. Et l'enfant ne pourra pas porter le nom de son père. Alors, une bonne question. Vrai ou faux? On dit que avoir un enfant français donne toujours le droit de rester en France. Eh bien, c'est faux. Certains parents perdent ou n'obtiennent pas de titre de séjour, bien que leur enfant soit français et française. C'est le cas de mères étrangères qui ne peuvent pas prouver que le père français s'occupe de l'enfant, ou de pères étrangers qui ne peuvent pas prouver qu'ils contribuent à son éducation, c'est-à-dire assure le logement, l'alimentation, etc., et verse et ou verse une pension. Et sur le petit recueil de la CIMAD, dont je me sers assez souvent, on voit sur un banc deux dames, deux jeunes femmes, avec leurs enfants, qui essaient de jouer devant elles, et une de ces jeunes femmes dit à l'autre « Au fait, je touche enfin l'allocation de mère isolée. Et toi, tu t'en sors ?» La réponse, c'est que c'est toujours très difficile. Alors, les enfants maintenus dans la précarité. Comment ça se passe? Alors, une illustration où on voit un fonctionnaire tranquille, bien assis dans son fauteuil derrière son bureau, et puis une maman qui est devant, debout, avec son bébé dans le dos, et qui pose la question « Pour avoir un titre de séjour ?» Et le fonctionnaire répond « C'est pas compliqué, si vous voulez travailler légalement, il vous faut un titre de séjour. » C'est pas compliqué. Si vous voulez avoir un titre de séjour, il vous faut travailler légalement. La plupart des parents sans papier travaillent malgré l'interdiction faite. Beaucoup déclarent leurs revenus et payent des impôts. Il faut bien nourrir la famille. Mais leur situation les lie souvent à des employeurs qui en profitent pour les exploiter. Certains métiers sont aussi interdits aux personnes étrangères en situation régulière. Quant aux discriminations, aux faciès et aux patronymes, elles cantonnent un grand nombre de parents dans des métiers sous-qualifiés. Bien sûr, ces obstacles ont un impact direct sur les conditions de vie des enfants. Autre question. On dit qu'il suffit d'avoir des enfants pour toucher des prestations familiales. Eh bien, c'est encore faux. Un grand nombre de parents ne touchent pas de prestations familiales. Il faut avoir un titre de séjour. Et les enfants nés à l'étranger doivent en principe être entrés en France après une procédure de regroupement familial. Et on voit des engins de chantier qui détruisent un abri, et le but de l'employé qui manœuvre cette machine, notre but, c'est que les enfants ne vivent pas dans un habitat insalubre. Et une dame, probablement la maman des enfants qu'on voit à proximité, et vous les relogez? Est-ce ainsi que la France assure le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant et offre une assistance matérielle aux parents qui en ont besoin, comme s'y engage la CID dans ses articles 26 et 27. Et la scolarisation de ces enfants, ça se passe comment? Article 28 de la CID. En France, l'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans et tout et toute mineure dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà. Trop d'enfants peinent cependant à exercer pleinement ce droit à l'éducation. Et on voit une fonctionnaire derrière un bureau qui accueille un père de famille qui arrive avec un gros dossier. Alors la fonctionnaire consulte et dit « C'est très bien tout ça, mais il manque toujours le certificat de baptême de votre grand-mère. » Car pour se soustraire à leur obligation de scolariser les enfants, certaines municipalités exigent des parents des justificatifs administratifs indus. D'autres prétextent un caractère illégal de l'habitat de la famille. Bidonville, squat, etc. Autre question, vrai ou faux, les enfants sont contraints et contraintes par l'État de vivre dans des centres d'hébergement loin de tout. Eh bien ça c'est vrai. Les familles peuvent même y être assignées à résidence. D'autres sont ballottées d'un hôtel social à l'autre. Cela entraîne des trajets épuisants pour rejoindre l'école. Et ça entraîne des ruptures de scolarité. Alors les centres d'hébergement, eh bien, c'est ce que nous appelons les CRA, les centres de rétention administrative. Et on voit un papa agenouillé devant le lit de sa petite fille. « Ma chérie, il faut te réveiller pour aller à l'école. » Et la gamine, « Si tôt ?»« Oui, car d'abord tu as une heure de bus et deux changements de métro et un Vélib et 13 minutes de marche. » Oui, dans mon village, c'est à peu près ce qu'on impose aux jeunes qui sont dans ce cas. Et il y en a beaucoup. Même prise en charge par l'assistante sociale à l'enfant, la SE, les mineurs isolés ne sont pas toujours scolarisés. Et au-delà de 16 ans, ces jeunes sont presque systématiquement orientés en filière professionnelle, quelles que soient leurs envies et leurs aptitudes. Et on entre dans un conseil de classe. Alors les profs sont assis autour d'une table et le proviseur a des notes en main. Alors, on arrive au cas de Awa Kwaite, 19 en maths, 18 en physique et en anglais. Elle voudrait être ingénieure. Alors, ce conseil de classe, qui est aussi un conseil d'orientation, à ce conseil, le proviseur répond « Mouais, on pourrait lui suggérer la filière service à la personne, c'est plus réaliste. » Service à la personne, dans le meilleur des cas, aide-soignante, mais souvent aide-soignante à domicile, ce qui n'est pas du tout le même statut. À Mayotte, département français, depuis 2011, la moitié de la population a moins de 18 ans. Les défaillances de l'autorité publique sont telles que les enfants non scolarisés se comptent par milliers. Et que se passe-t-il pour des enfants séparés de leurs parents? La France est censée veiller à ce qu'aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré, sauf si c'est dans son intérêt. La France dit favoriser leur vie de famille. Elle doit favoriser la vie de famille. Alors ça... Ça devrait être la généralité des attitudes municipales, mais on se souvient à Toulouse que ce n'est pas le cas. On se souvient de la façon dont les hôtels du 115 ont été vidés pour mieux recevoir les spectateurs du tournoi de rugby il y a un an et demi. Et on se souvient qu'il y a eu des bébés qu'on a envoyés dormir sous des tentes sur le bitume au pied des HLM. Il y avait des bébés de 3 mois et de 18 mois. C'était le choix de M. Moudenc. Non, on voit un adolescent qui téléphone à sa mère. « Maman, pourquoi ça fait 2 ans que j'attends pour vous rejoindre en France ?» Et la maman de l'autre côté de la frontière qui répond « Il manque 1 mètre carré à notre appartement. » Dans les faits, non seulement la France impose de longs délais et des conditions drastiques pour réunir parents et enfants séparés par l'exil, mais sa politique migratoire cause de nouvelles séparations. Oui, j'en reviens à la façon dont M. Moudenc a pris soin des familles en attente de papier. La famille où il y avait des bébés dont je vous parlais, il y avait aussi des enfants adolescents de 14 et 15 ans, de 13 et 15 ans. Et c'était deux jeunes filles, pour illustrer son zèle à maintenir les familles réunies, et bien M. Moudenc a envoyé les enfants, les aînés, les grandes filles de 13 et 15 ans, il les a envoyées en foyer. Pendant que les parents faisaient un camping presque de vacances au pied des HLM de Bellefontaine, je crois. L'enfermement en centre de rétention de parents menacés d'expulsion crée des séparations très angoissantes pour les enfants. Il arrive même que des enfants sont placés à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, et donc en foyer, le temps de cet enfermement. Et on voit deux mamans qui sont enfermées dans un CRA. On voit les barreaux aux fenêtres. Et les mamans sont assises sur un banc et se demandent des nouvelles. J'espère que la voisine s'occupera de mon fils. Et l'autre qui répond, moi, j'arrive même pas à contacter le mien. Alors, question, vrai ou faux ? Des parents sont expulsés alors que leur enfant est en France. Eh bien, c'est vrai. Y compris des parents d'enfants français que la loi protège théoriquement de l'expulsion, mais qui, en centre de rétention, ne peuvent pas prouver leur contribution à l'éducation de leurs enfants. Ah ben oui, c'est difficile de travailler en centre de rétention. En Outre-mer, l'État français crée des mineurs isolés par centaines. Et voilà comment on fabrique des mineurs isolés. En Guyane et à Mayotte, Des enfants vivant dans une famille monoparentale sont laissés seuls à la maison, confiés à une voisine ou placés par l'aide sociale à l'enfance, le temps de l'enfermement de leur père ou de leur mère en centre de rétention. Certains ou certaines de ces parents célibataires sont même expulsés sans avoir pu récupérer leurs enfants. Je rappelle ce qu'on sait maintenant, c'est que les centres de rétention enferment les parents jusqu'à 90 jours. Et un gamin qui demande « Mais où il est mon papa? Il est toujours enfermé ?»« Mais non! Il a pris l'avion et il est rentré chez lui. » Oui, il devait avoir des menottes, puisqu'on a le droit de refuser de monter dans l'avion qui fait quitter la France. Dans le département de Mayotte, on expulse aussi des enfants aux Comores, sans leurs parents, après les avoir rattachés arbitrairement à d'autres adultes. Et oui, on fait exploser les familles. Les enfants sans famille sont en danger. La France a l'obligation de prendre en charge et d'assurer la protection de tout mineur privé de sa famille sur son territoire, quelle que soit sa nationalité. Articles 20 et 22 de la CIDE, de la Convention internationale des droits de l'enfant. En pratique, on met en doute l'âge des adolescents, grands et forts, qui sont les seuls qui pouvaient affronter le voyage. J'espère que vous vous souvenez de l'émission, de la série d'émissions de Contre-Histoire sur l'histoire de Kwame, qui donne tous les détails sur la dizaine de milliers de kilomètres qu'il a dû franchir pour arriver à Toulouse. Alors, ce qui se passe quelquefois, un jeune arrive avec sa carte d'identité où on voit qu'il est mineur, et un douanier regarde la carte d'identité et y va de son crayon. « Et voilà, je change ta date de naissance et c'est magique, tu es majeur. Tu peux reprendre le train pour l'Espagne. » Certains mineurs sont refoulés à la frontière, ce qui est illégal. Pour les autres, faire reconnaître leur minorité est une véritable épreuve. La loi prévoit la mise à l'abri immédiate et inconditionnelle de toute personne se déclarant mineure isolée. Or, des jeunes peuvent rester de longs mois à la rue sans assistance psychologique ou matérielle, le temps que le département évalue leur âge. Les documents de l'état civil de ces enfants sont souvent négligés. Leur âge est estimé avec suspicion sur des critères aussi subjectifs comme l'apparence physique ou le comportement, sans prise en compte d'un vécu qui a pu les vieillir prématurément. J'espère que vous avez vu l'histoire de Souleymane. Et là, on a une illustration qui semble tout à fait extraite de la fin de ce film. À un bureau, on voit des employés qui trient des dossiers de demandeurs d'asile. Celui-ci est vraiment confus. Ça sent le mensonge. » Et l'autre qui répond, « Et en voilà une, c'est tout le contraire. Très cohérente. Encore un récit, bidon, appris par cœur. » Les tests osseux contestés par le milieu scientifique pour leur manque de fiabilité et dénoncés par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies restent d'usage. « Le test osseux est formel, c'est une mineure !» déclare un scientifique en levant le nez de son microscope. « On n'a plus de place d'accueil dans le département. Alors le test osseux est formel, c'est une majeure. » On vieillit vite quand on est très jeune, dans ces circonstances. Preuve du caractère aléatoire des décisions, le taux de reconnaissance de la minorité varie fortement selon les départements et semble parfois adapté à leur capacité d'accueil, voire à leur volonté politique. Certains jeunes reconnus mineurs dans un département sont même vieillis par un autre département censé les prendre en charge. Autre question, vrai ou faux ? On dit que tout enfant sans parents est reconnu mineur et mis à l'abri. Eh bien, c'est pas vrai. Dans les faits, être reconnu mineur ne garantit pas une prise en charge conforme à la loi. Alors voilà une discussion de fonctionnaires qui réfléchissent à différents cas de demande d'asile. On a deux options. Soit on vote pour une prise en charge avec école à 150 € par jour, soit on part sur la formule hôtel avec PAC, tu te débrouilles, et on passe sous la barre des 100 €. Soit on garde l'argent pour les petits bien de chez nous, ajoute quelqu'un qui doit voter RN à mon avis. Certains départements offrent un suivi socio-éducatif et un hébergement dans une structure adaptée. Ils aident celles et ceux qui peuvent y prétendre à déposer une demande d'asile et anticipent leur majorité en vue d'une demande de titre de séjour. D'autres départements laissent les enfants reconnus mineurs, y compris très jeunes et parfois malades, à la rue. Quant aux jeunes estimés majeurs qui contestent cette décision en justice, les tribunaux reconnaissent leur minorité plus d'une fois sur deux. Mais encore faut-il être accompagné pour faire cette démarche, et pendant la procédure, aucune mise à l'abri et une possible expulsion. Et on voit des enfants qui fouillent des poubelles. Regarde, c'est horrible. Ils ont quoi ? 6 ans ? On fait un signalement ? Demande un employé des services d'aide à l'enfance. Tu sais, nous sommes à Mayotte, et si tu commences à signaler ça, tu vas passer ta journée au téléphone. À Mayotte et en Guyane, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, n'examine même pas la situation de centaines d'enfants, de toute évidence mineurs. Et il y a des enfants victimes de traite. Enfants victimes de traite non secourus. La France n'est pas à la hauteur de ses engagements pris pour lutter contre la traite des enfants. Voir l'article 32, 34, 35, 36 et 39 de la Convention internationale des droits de l'enfant, avec son protocole additionnel adapté en 2000 pour la CIDE. Face à la restriction des voies légales pour entrer en Europe, les enfants s'exilant seuls ou en famille sont particulièrement exposés aux réseaux de trafiquants. Parfois, du fait de l'indifférence des pouvoirs publics ou de l'impossibilité de faire reconnaître leur minorité, c'est en France que le cauchemar commence. Car les mineurs isolés, en situation d'errance, constituent des proies idéales. Et on voit deux hommes avec des chapeaux qui leur cachent aux trois quarts le visage. Ils ont l'air de sortir d'un film de gangster américain. Et l'un dit à l'autre, Si tu cherches à mettre une fille sur le trottoir, prends une mineure isolée, il n'y aura personne pour s'inquiéter. Autre question, vrai ou faux? La France n'a pas de dispositif spécifique de lutte contre la traite des mineurs. Eh bien, c'est vrai. Et les professionnels de l'enfance sont mal formés à ce fléau pour les protéger. Pourtant, les mineurs exploités subissent des formes d'exploitation particulières qui les exposent à de fortes violences physiques ou psychologiques. Et on voit des enfants que l'on a dressés à voler. Et une autre image, où un enfant qui tient le mur, comme on dit souvent, un homme passe et demande « C'est combien ?» Dettes imposées, papiers confisqués, séquestration d'enfants rendus dépendants aux drogues. On voit des enfants qui travaillent à la machine. Ça, le travail de couture à la machine, il est souvent assuré par des gens en demande d'asile et aussi par des enfants, comme on voit ici. Pour bénéficier d'une protection, de plus en plus de mineurs de nationalité étrangère doivent passer par la case préfecture ou commissariat. C'est une obligation très dissuasive pour des mineurs qui ont vécu des expériences traumatisantes avec la police pendant leur parcours ou en France. Et dans ce cas, tout travail est un travail au noir, illégal et même parfois dangereux. Alors on voit la police qui a vidé un lieu de travail illégal. Et ils sont tout contents. Joli coup, une ferme à cannabis démantelée et un vol retour pour tous ces gamins. Des fois, on a de bonnes journées comme celle-ci. La peur fondée d'être expulsée fait aussi obstacle à la recherche de protection des enfants. Des enfants confrontés à l'univers carcéral. Oui, ça existe aussi. L'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant précise que l'enfermement d'un enfant ne doit être qu'une mesure de dernier recours. Là encore, on constate que la France manque à ses devoirs quand il s'agit d'enfants de nationalité étrangère qu'elle devrait protéger plutôt que réprimer. Ainsi, la justice est de plus en plus rapide à enfermer dans les établissements pénitentiaires pour mineurs, EPM, on en a un pas loin de Toulouse, des enfants victimes de délinquance forcée ou des mineurs isolés à la rue ayant commis des délits de subsistance. Et oui, Les Misérables, c'est toujours d'actualité. Alors, deux enfants qui échangent leurs histoires. Et toi, t'es là pourquoi? Pour vol de carte bleue, on m'y a obligé. On t'y a obligé? Et c'est toi qui es en prison ? Vrai ou faux, la loi autorise l'enfermement des enfants avec des adultes. Alors la loi l'autorise? Non, la loi ne l'autorise pas. Mais cet enfermement existe tout de même. C'est contraire à toutes les règles de la protection de l'enfance. Pourtant, celles et ceux dont la minorité est contestée sont mis en prison avec des adultes, le plus souvent, sans que la justice ne se soit prononcée sur leur âge. Certains et certaines sont même incarcérés avec la ou la personne qui les exploitait. D'autres pour être entrés en France avec de faux papiers. Sur le passeport que le passeur m'a donné, je suis majeur, mais en vrai, je suis mineur. Faux et usage de faux, 6 mois de prison, déclare le juge du haut de son perchoir. Les jeunes se déclarant mineurs sont aussi enfermés avec des adultes derrière des barreaux d'un centre de rétention. En 2018, rien qu'en métropole, 339 jeunes de 12 à 17 ans ont vécu ce traumatisme. 92% ont été libérés sur décision de justice, ce qui donne une idée des abus. Et on voit un ado avec une peluche, il ne doit pas être bien grand. En centre de rétention, avec des fenêtres à barreaux. Et on voit des bruits divers et variés. Plic-ploc, vroum-vroum, noum, nout, plic-ploc, ah, clic-cloc. Il y a des marteaux-piqueurs dans le voisinage. À ces jeunes s'ajoutent les enfants âgés de quelques mois à 18 ans, qui y sont enfermés avec leurs parents, ou comme à Mayotte, avec des adultes en ayant prétendument la charge. C'est le cas de 50 000 enfants depuis 1995. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà condamné 6 fois la France pour ce traitement jugé inhumain et dégradant. Il y a des enfants à la santé malmenée. Plus les enfants vivent en situation de précarité, plus la France faillit dans le respect de leur droit à la santé exigé par la Convention internationale des droits de l'enfant, article 24 de la CID. Dans les lieux de survie que sont les squats et les bidonvilles, l'absence d'eau potable, la promiscuité et le non-ramassage des ordures favorisent la propagation de maladies. Les enfants, affaiblis par la sous-alimentation et le manque de sommeil, sont doublement vulnérables. Alors, une infirmière était en train de vacciner des enfants d'un bidonville et la police intervient. « Laissez-moi au moins terminer ma piqûre, c'est pour les vaccins !» Les expulsions répétées des abris de fortune accroissent leur précarité tout en interrompant le suivi médical et les traitements médicaux qui parfois ont pu être mis en place. Vrai ou faux, des enfants sont hospitalisés sans que leurs parents aient le droit d'être à leur côté. C'est tout à fait vrai. À Mayotte, pour des soins complexes ou urgents, des enfants sont évacués à La Réunion ou en métropole. Or, les parents en situation irrégulière obtiennent rarement le laissez-passer les autorisant à les accompagner. Des enfants, y compris des bébés, sont ainsi hospitalisés seuls, parfois, pendant des mois. Il arrive même que des parents sont expulsés pendant l'hospitalisation et l'enfant qui reste sur place est confié à l'ASE. Ça, c'était une astuce de Michel Debré pour mettre la main sur des enfants dont les parents étaient hospitalisés. Et avec cette organisation qu'il avait mise sur place dans les années 50-60, qui s'appelait le Bumidom, on avait comme ça, à chaque hospitalisation de parents, on avait des enfants qui étaient disponibles. On embarquait les enfants pour peupler les départements déficitaires, et en particulier le département de la Creuse, où j'ai rencontré ces enfants. Dans mes années 60. Responsables de situations très anxiogènes, les politiques migratoires génèrent aussi beaucoup de mal-être chez les enfants et pèsent sur la santé mentale des plus vulnérables. Et là, on voit des enfants qui traduisent le discours du juge pour les parents. Tu peux traduire pour tes parents ? À partir de maintenant, ils devront pointer tous les jours avec toi au commissariat avant leur expulsion. Qui ne serait pas éprouvé par la peur d'être séparé d'un parent, d'être expulsé dans un pays inconnu ou renvoyé dans celui où vous avez connu l'horreur? Et comment affronter ces situations quand elles deviennent réalité? Pour les droits de l'enfant, demandons avec la CIMAD la fin de toutes les entraves faites au droit de vivre en famille, la fin de la suspicion à l'égard des parents étrangers d'enfants français, l'accès sans entrave au droit au séjour et au travail des personnes étrangères, l'égalité des droits sociaux entre tous les parents, quelle que soit leur nationalité, une prise en charge inconditionnelle de tous les mineurs isolés et la protection des enfants victimes de traite, la suppression des droits au rabais pour les enfants vivant en outre-mer, la fin des entraves faites à la scolarisation et à la poursuite d'études et la résorption des bidonvilles par l'accès à un logement digne pour toutes et tous et la fin de l'enfermement des enfants. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je mettrai sur la page de podcast les références de tous les articles du Code civil et de la CIDE.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière Saint-Just comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.